With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Chasseur me tuera, lapin en tricard, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. 30e épisode dans lequel je reçois Justine, maman de deux enfants. Justine est une sportive et a donc pour habitude de se fixer des objectifs. Pour sa maternité, ce fut également le cas. Elle souhaitait un accouchement naturel pour son premier bébé, mais la médecine en a décidé autrement. Dans cet épisode, Justine nous raconte son attente avant de réussir à tomber enceinte, pourquoi son premier accouchement ne s'est pas passé comme elle le désirait, le mental qu'elle a su avoir pour son deuxième, et comment le sport se mêle naturellement à sa nouvelle vie de maman. Bonne écoute. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté de témoigner dans Le Tourbillon.
Merci à toi.
Alors tu es la maman de deux enfants, une fille et un garçon. Quel âge ont-ils ?
Naëlie, elle a 5 ans et Timothée, il vient d'avoir 2 ans.
Comment est venu chez toi le désir de maternité ?
Alors, j'ai envie de dire depuis toujours... Moi, j'ai toujours adoré les enfants. J'ai passé le BAFA petite enfance. J'ai gardé des enfants à fond quand j'étais ado. Donc, dès que j'ai rencontré mon homme, peu de temps après notre mariage, on avait envie d'avoir un bébé.
Et tu es rapidement tombée enceinte ?
Alors, pour Naëlie, pas du tout. En fait, moi, je croyais que quand on s'aimait, on faisait l'amour et paf ! Il y avait un bébé et en fait, autant tu peux prévoir plein de choses et je suis assez organisée, donc le mariage c'était fait, mais le bébé, je pouvais pas cocher cette case tout de suite, et comme toutes les femmes qui ont un vrai désir d'avoir un bébé, dès qu'on a le test qui indique négatif, on se met dans des états pas possibles, et moi au bout de 6 mois déjà ça me démangeait. Alors au bout d'un an, j'étais vraiment, à chaque fois que je voyais un test qui indiquait négatif, j'avais envie de pleurer, et je pleurais très souvent. Et au bout d'un an et demi, c'était carrément cata, quoi. On m'a très vite voulu voir des spécialistes, un peu... parce que moi, ça me mettait dans des états pas possibles et que j'avais envie de savoir pourquoi. Est-ce que c'était de ma faute ? Est-ce que c'était de la faute de Vianney ? Mon mari, j'étais vraiment soucieuse de savoir ça. Et puis on a fait des tests et il s'est avéré que mon mari n'avait pas un bon spermogramme. Et du coup, moi, ma réaction tout de suite, ça a été de lui en vouloir. Et ça, c'est très mauvais quand un couple essaye d'avoir un bébé, vu que pour... avoir un bébé, il faut faire l'amour, il faut s'aimer. Quand on en veut à l'autre, c'est compliqué. Ça, c'était une période un peu difficile où j'ai essayé de mettre ça de côté. Mais en fait, tu ne mets jamais ça de côté quand tu as une idée en tête, surtout celle d'avoir un bébé. Ce que j'ai fait de mieux, c'est d'aller voir un psy. Sous les conseils de ma cousine, qui elle-même est psy, et qui m'a dit, à mon avis, tu devrais décharger tout ça. Et du coup, je suis allée voir une psy pour lui en parler, pour lui dire, en fait, je me rends compte que j'en veux énormément à mon mari, parce que je lui disais pas, évidemment. Je lui disais pas, je t'en veux. Parce que c'est dégueulasse de dire ça à son mec, il y est pour rien. Surtout que mon mari était très stressé à l'époque. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'arrivait pas forcément à avoir un bébé. Et il était très stressé, il avait un boulot très prenant. Et du coup, c'est nul de dire ça à son mec. Au contraire, il faut être soudé dans ces moments-là. Et du coup, j'en parlais aux copines. Mais déjà pareil, hein, tu culpabilises un peu de penser ça. Et du coup, à la psy, bah là, j'ai tout dit, quoi. J'ai ouvert les vannes, j'ai tout lâché, sans culpabiliser et surtout sans aucun jugement. Et du coup, bah, la psy m'a bien aidée. Et elle m'a dit, bah là, c'est l'été, vous allez partir en vacances avec votre chéri et essayer de comprendre pourquoi vous êtes avec lui, pourquoi vous vous aimez si fort, plutôt que tout de suite d'avoir cet objectif du bébé. Mmh. Donc on est parti en vacances, et en fait, peu de temps après, je suis tombée enceinte. Et on avait un rendez-vous, je m'en souviens, en septembre pour essayer de déclencher, enfin de faire une FIV, etc. Enfin, vraiment les rendez-vous qui pour moi étaient les rendez-vous de l'horreur. Et en fait, on a appelé pour dire que c'était pas la peine puisque je suis tombée enceinte peu de temps avant.
Et au bout de combien de temps finalement tu es tombée enceinte ?
Bah, au bout de un peu plus d'un an et demi.
Et alors, comment tu as accueilli cette belle nouvelle ?
Bah, j'étais à fond. En fait, le truc, c'est une petite anecdote, c'est que j'avais un tournage, puisque je suis journaliste, et j'avais un tournage pour une course. Et je devais donc participer à cette course. Et il fallait un certificat médical, donc je vais chez mon médecin, et mon médecin, donc il m'ausculte, et puis il me dit, c'est marrant, tu serais pas enceinte ? Et je lui dis, non, me parlez pas de ça, ça fait un an et demi que j'essaye, j'ai carrément mis ce projet de côté, enfin bref. Et il me dit, bah, va faire quand même un test. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, parce que c'est un pro, je sais pas. Mais du coup, j'y suis allée, et le test, en fait, j'ai acheté un test en pharmacie, il était positif. Direct après, je suis allée faire un test sanguin, c'était positif, et là, c'était assez incroyable. Donc, j'ai quand même fait la course, mais en marchant, juste pour le tournage, mais j'étais très très heureuse, ouais.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Impeccable. J'ai cette chance-là, et pour mes deux grossesses en plus, d'avoir eu une grossesse formidable. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas eu de nausées, de désagréments. En tout cas, pour Naëlie, c'était un long fleuve tranquille, une grossesse sur un petit nuage. J'étais très en forme en plus. Donc ça, j'ai pratiqué le sport pendant toute ma grossesse. Donc une grossesse extra.
Et tu souhaitais accoucher naturellement ?
Alors oui, pour Naëlie, j'avais vraiment un souhait, déjà même avant de tomber enceinte, c'était d'accoucher naturellement, sans péridurale, parce que ma mère avait accouché naturellement et parce qu'autour de moi, mes grands-mères, mes tantes avaient tout accouché naturellement et j'avais envie de faire comme elles, quoi. J'avais envie d'essayer. Je me dis, bah voilà, il y a plein de femmes dans le monde qui accouchent naturellement depuis des générations. Donc j'avais envie d'essayer, mais bien sûr de faire en sorte de le faire du mieux possible, donc sans douleur, c'est un peu exagéré, mais d'essayer en tout cas d'accompagner cette douleur. Donc du coup, j'avais fait l'aptonomie.
C'est quoi ?
Alors l'aptonomie, c'est une technique pour accompagner l'accouchement et même la grossesse, où on prend contact avec le bébé, mais dès les 4 mois de grossesse. Donc le papa est là, il a vraiment un rôle, donc ça c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Et on caresse le ventre, on appelle le bébé, le médecin qui nous accompagnait pendant l'aptonomie était vraiment... C'était vraiment extra aussi, c'est une femme, elle voulait vraiment que Vianney soit présent à fond et elle le boostait, elle le coachait presque plus que moi pour qu'il soit opérationnel le jour J. Voilà.
Et alors, est-ce que tu as pu accoucher naturellement le jour J ?
Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, et pourtant j'ai tenté le coup. Je devais accoucher le 21 juin, enfin c'était soi-disant mon terme, et le 17 juin, je vais pour un rendez-vous de contrôle chez mon obstétricien, puisque donc j'avais cette femme qui m'accompagnait pour la préparation à l'accouchement, donc avec l'aptonomie, et j'avais aussi un obstétricien avec qui il y a rendez-vous tous les 2-3 mois pour voir si ça se passe bien. Et donc à la fin, bien sûr, on avait rendez-vous plus fréquemment. Et donc le 17 juin, je vais le voir le matin pour ce rendez-vous de contrôle et il me dit il va falloir aller à la clinique ce soir, rentrer chez vous, prenez vos affaires, on vous déclenche. Alors moi, à l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait déclencher comme ça avant la date du terme, sans aucune raison. Et donc je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? En fait, mon terme, c'est le 21 juin. Non. Et sauf qu'à l'époque, c'était ma première grossesse, mon premier bébé. J'ai juste écouté les consignes du médecin. Si, c'est mieux, parce que là... clairement, le col, il n'est pas du tout prêt à être dilaté. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, si c'est comme ça, autant y aller. Et avec du recul, c'est vraiment une réflexion naze que j'ai eue. Mais je me suis sentie un peu démunie. C'est-à-dire que je me suis dit, si le médecin me dit ça, un peu comme la bonne élève avec un professeur, je vais l'écouter. Et puis autour de moi... ma mère, tout le monde m'a dit, s'il dit ça, le médecin, c'est qu'il vaut mieux l'écouter. C'est vrai qu'il y a quand même un grand respect du corps médical, et à juste titre, hein, bien sûr, mais parfois, c'est un peu, on suit comme un bon petit soldat, sans vraiment se poser de questions. Et donc, je suis allée à la maternité, je m'en souviens, j'ai appelé mon mari en disant, changement de programme, ce soir, il faut que j'aille à la maternité, viens me rejoindre à la maison, etc. Donc, on est parti à la maternité. Et là, c'est un peu bizarre. Tu prends rendez-vous avec ton bébé, quoi. Alors, je sais qu'il y a certaines femmes qui aiment ce côté-là. Mais alors, moi, pas du tout. J'avais l'impression qu'on me volait ce côté... tu vas perdre les os, l'accouchement un peu surprise. Mais mon mari me disait, écoute, c'est pas plus mal, comme ça. T'es à la maternité, on sait qu'ils sont là s'il y a quoi que ce soit. Lui, qui est vraiment un working boy, il était là, c'est pas plus mal, le fait qu'il n'y ait pas de surprise. Comme ça, je pense qu'il pouvait reporter ses rendez-vous. Et du coup, on va à la maternité. Et là, ils me mettent le propès. Donc, c'est un tampon qui va permettre la maturation du col.
Donc, direct quand t'arrives ?
Ouais, presque direct, quoi. Donc, j'étais dilatée. Mais j'étais même pas dilatée, en fait. J'avais le col dur comme du béton. Et on me met le propès, je dis clairement, je ne veux pas de péridurale. Et là, la sage-femme, elle me rigole un peu au nez en me disant, c'est ce qu'on va voir, elle dit tout ça.
Donc tu avais fait quand même le rendez-vous avec l'anesthésiste ?
Alors j'avais fait quand même le rendez-vous avec l'anesthésiste parce que on m'avait dit on ne sait jamais, et puis en effet, ils avaient raison. Donc du coup, j'avais pris ce rendez-vous-là. Et donc, la sage-femme me dit, écoutez, pour l'instant, on ne la met pas, puisque de toute façon, avec le propès, ça va mettre beaucoup de temps. Donc, si on vous la met, ce sera quand le col sera dilaté à 3-4 et que les contractions seront là. Donc là, on me met le propès. Donc, c'est le lundi 17 juin. C'était lundi 16 juin. Et du coup, le lendemain à midi... Je me souviens, j'étais avec mon ordi, je travaillais, je lançais la nouvelle version de mon site internet. Aucun rapport, j'étais absolument pas dans l'état d'esprit d'accoucher. Et ça, pareil, c'est un peu nul, quoi. J'étais là dans la chambre à bosser, je me souviens, j'avais mon associé au téléphone. T'es à la maternité, mais en fait, j'aurais très bien pu rester chez moi, quoi.
Ah oui, tu n'avais aucune douleur à ce moment-là ?
Aucune douleur, absolument aucune. Et j'avais ce propès qui ne faisait pas du tout effet. Je me souviens que les sages-femmes vérifiaient, hein, vous n'avez rien, bon bref. Et là, à 14h, je passe de rien du tout à je vais mourir. C'est-à-dire que je passe de rien à des contractions extrêmement douloureuses. Et c'est très étrange, parce que quand tu vis des contractions naturelles, puisque c'est ce que j'ai vécu avec Timothée, ça va crescendo. Là, c'est de rien à tout. Donc, je reste quand même, je campe sur mes positions, je me dis, attends, non, pas de péridurale, et donc je fais toutes les techniques de l'aptonomie, j'avais fait aussi un peu de chant prénatal, donc je me souviens, à maternité, avec Vianney, je chantais des chants africains, enfin, c'était très drôle, et je passe quand même, malgré les contractions, un bon moment. C'est-à-dire que j'étais avec Vianney, on se marrait, il me prenait en photo. Bon, ça va. Mais les contractions, elles me font mal, clairement. Je demande un ballon, voilà. Et j'attends la fin de journée. Et là, en fin de journée, je suis dilatée qu'à 3. Et là, je me dis, c'est la même merde. Parce que là, si t'es dilatée qu'à 3 et que ça te fait horriblement mal, vers la fin, c'était au point de perdre connaissance, clairement. Donc, on attend un peu. Et puis, l'obstétricien qui me suivait me dit, là, tu commences à fatiguer. Il vaudrait mieux qu'on te mette une péridurale, quitte à ce qu'on la mette pas trop dosée, parce qu'il savait, il connaissait mon projet de naissance, parce que sinon, je connais ça, tu vas finir en césarienne d'urgence. Et c'est pas ce que tu veux. Donc avec ces mots, en effet, il finit par me convaincre et je passe, puisque du coup ça me relaxe évidemment un peu, je passe de 3 à 4 à 5 assez rapidement. L'obstétricien dit aux sages-femmes, etc., à l'équipe, « Bon, bah, moi, je rentre chez moi. À mon avis, ça va pas, le bébé va pas arriver avant le petit matin. » Sauf qu'il se trompe. C'est-à-dire qu'il prend sa moto et là, je commence à ressentir des contractions très fortes. Et je me dis, très bizarre. On m'a mis la péri. J'avais ressenti un peu les effets de la péridurale et je sens des contractions dans les fesses. Et je dis à mon mari, mais c'est incroyable, je sens que ça pousse dans le derrière, je sais pas si j'ai envie d'aller aux toilettes ou quoi, mais c'est horrible, là, c'est cata, appelle l'anesthésiste. Donc il rappelle l'anesthésiste appelle la sage-femme sans rien me dire, et la sage-femme me dit, ok, le bébé arrive. Il est, je sais pas, à peu près 23 heures, donc il s'est passé des heures, bien sûr, et là, elle rappelle le médecin, qui était même pas arrivé chez lui, je crois. Et elle lui dit, le bébé arrive, donc il faut revenir en fait. Donc là, le médecin revient. Entre-temps, il faut savoir pour la petite anecdote qui m'avait dit, mettez-vous une playlist à la cool parce que vous allez avoir des contractions, mais pas trop, avec la péridurale, vous n'allez rien sentir, donc prenez ce temps-là pour vous reposer. Donc en fait, moi, après, pendant la période de l'accouchement des poussées, j'ai quand même poussé sur Unchained Melody et des chansons comme ça, donc c'était un peu rigolo. Mais bon, du coup, avant cette période où le bébé arrive, l'obstétricien revient et là, je vois sur leur tête que en fait, ça va pas du tout parce que je suis passée de 3 à 9 en peu de temps, que le cœur du bébé, ça commence à ralentir. Que le bébé va pas bien, alors que moi j'étais passée un peu en mode euphorie avec la péridurale, puis après on m'a dit ça y est, le bébé arrive. Vu que tu sens moyennement les contractions, t'es pas maître de ton accouchement. Et c'est justement ce que je voulais pas. Quand tu te fais accompagner pour l'aptonomie, t'as envie de faire tout seul, quoi. Et donc là, l'obstétricien, je le vois un peu inquiet, alors que c'était plutôt quelqu'un d'un peu comique qui te fait des blagues. Même quand t'as pas envie qu'il t'en fasse. Et là, il t'en fait pas du tout, en fait. Et il dit, bon, Justine, t'es sportive, eh bien, il va falloir que tu le montres, maintenant. Il va falloir que tu donnes tout. Et donc là, j'ai tout donné, sauf que là, il y a eu les forceps. J'ai tout eu. Forceps, épisio, tout ce que je voulais pas, je l'ai eu. Et en plus, on me le disait pas vraiment, quoi. J'entendais juste, passe les spatules, machin, mais... Je n'étais vraiment pas maître de cet accouchement. Et bon, ce qui compte, c'est que Naëlie est arrivée et qu'elle était en bonne santé, etc. Mais ouais, ça a été un accouchement que j'ai vécu à moitié, quoi.
Tu as vécu ça comme un échec ?
Ouais, comme un échec, mais a posteriori. C'est-à-dire que sur le moment, je pense que le côté de j'ai fait de l'aptonomie, je voulais un accouchement sans péridurale, tout ça, t'oublies. T'es juste là pour que le bébé arrive en pleine santé. Et voilà, et même sur le coup, après le bébé, Naëlie, elle a grimpé pour téter toute seule. Enfin, il y a eu quand même des moments extraordinaires. Et puis rien que de l'avoir sur moi, en peau à peau, d'être rassurée, je pense que c'était une vraie joie. Et puis je me souviens vraiment des moments drôles aussi après, quand il me recousait sur ma playlist à la con, là. Ça, c'était quand même drôle, quoi. J'ai accouché et je me suis fait recoudre sur des mélodies un peu romantiques, en mode slow. Et bon, tu prends un fou rire après.
Et ça t'a pas empêché d'être bien connectée à ta fille dès le début ?
Non, mais c'est vrai que je me dis c'est dommage, j'aurais voulu le vivre autrement. Après, j'ai quand même allaité pendant 6 mois Naëlly, j'ai fait du portage, j'ai fait du pot à pot, on a refait de l'aptonomie après, parce que c'est bien de continuer l'aptonomie jusqu'à ce que l'enfant marche. Donc on a fait tout ça, et voilà. Et puis je pense qu'il y a plein de mamans qui sont hyper connectées avec leurs enfants, qui ont accouché même sans que ce soit naturellement. Mais voilà, moi j'étais déçue et j'ai pas voulu que ça se reproduise pour le deuxième, ça c'est sûr.
Et alors, est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman ?
Oui, franchement oui. J'ai pas ressenti de moments de déprime. Même si à la maternité, je me souviens que la psy, parce qu'il y a une psy qui était venue me voir, j'ai accouché à Sainte-Félicité, une maternité vraiment extraordinaire où les sages-femmes et les bonnes sœurs sont au top, parce que c'est une maternité où il y a des bonnes sœurs qui viennent un peu aux petits soins. Et la psy était venue me voir et je me souviens d'avoir pleuré en disant, je pense que j'avais une grosse chute d'hormones quand même à ce moment-là, où j'avais dit, oh, je suis tellement bien ici avec vous aux petits soins. Je ne sais pas si j'y arriverai à la maison. Voilà, vraiment, là, ce moment-là, j'avais eu un moment de down à fond. Mais après, de retour à la maison, ça s'était très bien passé. Ma mère était venue, parce qu'elle habite à Aix-en-Provence, elle était venue avec mon père pour un peu s'occuper de nous. Mais ils ont un pied-à-terre à Paris, donc c'était bien. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là H24. Donc on avait aussi la possibilité de se connaître tous les trois, voilà, d'être une petite famille. Mais ma mère et mon père étaient quand même aux petits soins, surtout ma maman. Pendant les 2 premières semaines, elle était là à mes côtés.
Après l'accouchement, est-ce que tu en as reparlé avec ce docteur qui t'a...
Déclenché ? Obligé. Alors, je lui en ai parlé, mais j'avais pas encore ce bagou que j'ai eu après. C'est-à-dire que je lui en ai parlé, on s'est vu très peu de temps après l'accouchement, pour les suites de l'accouchement, pour voir si l'épisio s'est cicatrisé, etc. Je lui ai juste dit, mais pourquoi on m'a déclenché ? J'ai jamais su vraiment... Et il m'a dit, parce que sinon, de toute façon, ça aurait mis beaucoup trop de temps, vu comment c'était parti. Est-ce que Naëlly était en danger ? Non, mais ça aurait pu, voilà. J'ai eu des réponses vraiment à demi-mot. Je ne sais toujours pas si, en fait, l'obstétricien voulait partir en vacances, voulait profiter de la fête de la musique. Je ne sais pas, peut-être pas du tout. Peut-être qu'il a cru bien faire, peut-être que c'était en fonction de l'emploi du temps de la maternité, je ne sais toujours pas. Mais en tout cas, j'ai changé d'obstétricien.
Et alors, 3 ans après, vous remettez ça.
Ouais.
Ça a été plus simple pour toi de tomber enceinte cette fois-ci ?
Ah bah alors, ça a été le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on s'est dit, tiens, ce serait bien s'ils avaient 3-4 ans de différence. Pourquoi 3-4 ans ? Parce que je ne savais pas du tout quand est-ce que ce bébé allait arriver. Mais j'étais quand même beaucoup plus relaxe parce que je me suis dit, ok, la machine fonctionne, on a eu un premier... Naëlly était petite, c'était encore un bébé, donc on se dit, ce bébé numéro 2 arrivera quand il arrivera. Et du coup, avec beaucoup moins de stress, avec beaucoup moins de nervosité autour de cette grossesse, eh bien, le bébé est arrivé même très vite, c'est-à-dire qu'en one shot, quoi. Un mois après, j'étais enceinte. Je me souviens qu'à l'annonce même de ce deuxième bébé, Vianney n'avait pas l'air forcément super content. C'était un peu trop tôt. Enfin, il n'avait pas eu le temps de s'habituer à ce désir de deuxième bébé. Vu que Naëlly, on l'avait tellement attendu, tellement désiré, ça n'avait rien à voir, quoi. Là, c'était limite un bébé surprise. Et moi, je l'ai tout de suite très, très vite accepté. Hein. Mais Vianney, je pense qu'il s'en est vraiment rendu compte que j'étais enceinte au moment de l'échographie, quoi. Voilà.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Eh bien, alors, pareil que la première, j'étais en forme, j'avais pas de nausées, j'ai eu plus des désagréments d'un point de vue gastrique. Je me souviens que je me faisais des jus de citron, enfin d'eau tiède citronnée avec des feuilles de menthe pour passer un peu des aigreurs. mais c'était pas non plus pendant toute la grossesse, c'était juste le premier trimestre, et j'étais quand même hyper dynamique, hein. Je faisais de la danse classique avec la jambe sur la barre à 4 jours d'accoucher, donc j'étais, non, j'ai eu une grossesse, j'ai rédigé même mon livre Fit Mum, du coup j'explique un peu qu'on peut passer une grossesse en pleine forme, enceinte de Timothée, on avait fait un shooting pendant 3 jours, enfin, donc j'avais quand même la patate, hein, donc c'était top. J'ai juste vécu le dernier mois un peu plus de façon difficile parce que j'ai eu j'avais des sensations d'irritation sur le ventre, en fait, j'avais envie de me gratter tout le temps, des démangeaisons sur le ventre, parce que j'avais un ventre énorme. Pour Timothée, j'ai l'impression d'avoir des jumeaux. Et voilà, le dernier mois était un peu difficile au niveau des démangeaisons, mais sinon ça allait.
Et alors, deuxième tentative pour l'accouchement naturel, est-ce que tu avais des appréhensions ?
J'avais surtout des... Je savais ce que je voulais. J'avais un projet de naissance, je me souviens, quand j'avais pris rendez-vous avec mon obstétricien, mon nouveau obstétricien qui avait été conseillé par une de mes amies, j'étais arrivée avec un projet de naissance et je lui avais dit, lisez-le, je respecterai le corps médical à la fin, votre décision sera mienne s'il y a danger pour ma vie et pour celle de mon enfant. En revanche, essayez de m'accompagner au mieux dans ce souhait et soyez encore heureux que je ne vais pas accoucher à la maison. Donc, je l'ai dit avec le sourire, mais il a accepté ça vraiment hyper bien et il m'a même conseillé une sage-femme qui m'accompagnerait. Enfin voilà. Et même pendant cette préparation à l'accouchement, j'avais fait la méthode Épineau, qui est une méthode qui permet d'assouplir en fait le périnée pour éviter les épisios. Et du coup, j'avais fait quand même une bonne préparation. J'avais pas fait d'apto parce que le fait de l'avoir fait sur la première grossesse, du coup pour la deuxième, on avait récupéré quelques techniques avec mon mari. Donc j'avais fait surtout yoga prénatal, un peu de sophro, la méthode Épineau et puis tout ce que je savais de l'aptonomie. Et du coup, j'attendais plutôt avec excitation le jour de l'accouchement de mon deuxième.
Et alors, ça s'est bien passé naturellement ?
Eh bien oui, en fait, moi j'ai accouché le jour du terme. C'est dingue, on m'avait dit que j'accoucherais le 14 juin. Et en fait, le 14 juin, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Mais comme j'avais jamais eu de contractions naturelles, je me disais, mais attends, c'est ça des contractions ? Mais c'est nul. Enfin, c'est rien, quoi. Ça va, quoi, ça passe. Et donc, j'attends un peu. Fin de journée, j'ai toujours des petites contractions. Mais du coup, là, je dépose quand même ma fille aînée chez ma cousine. Et je me dis, à mon avis, c'est pour ce soir. Donc voilà. Et on va à la maternité. Et j'étais dilatée à 3. Donc, vu comment j'avais douillé pour être dilatée à 3 pour ma première grossesse, il y avait quand même une grosse différence. Parce que là, c'était vraiment des petites contractions. Et du coup, dilatée à 3, là, je tombe sur une sage-femme hyper enthousiaste à l'idée d'accoucher une maman sans péridurale. En fait, elle était ravie. Et donc, elle me dit, de toute façon, restez pas ici. Si vous avez envie d'accoucher sans péridurale, le mieux, c'est d'aller faire un tour. Donc, c'était une belle soirée d'été, même un peu caniculaire. Il faisait hyper chaud. Et on est parti avec mon mec faire un tour. On a même mangé un bout, ce qui n'est pas forcément très conseillé, mais j'avais très faim. Donc, on a mangé un bout, j'ai bu de l'eau, bon, évidemment. Hein. Et là, des contractions se sont accélérées au restaurant. Et du coup, je me suis dit, oh là là, là, j'ai l'impression quand même que ça commence à faire très mal. On va peut-être retourner à la maternité. Donc, on est retourné, il était 22h, donc 2 heures seulement s'étaient écoulées. Et j'étais dilatée à 6, avec des contractions quand même soutenables, c'est-à-dire douloureuses, mais gérables. Et là, donc elle me dit, la sage-femme me reçoit, et donc elle me dit, vous êtes dilatée à 6, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire du ballon. Et donc moi, j'avais bien bien préparé mon accouchement déjà avec le ballon à la maison, donc je connaissais le gros ballon, et du coup... je remue mon bassin à droite, à gauche, devant, derrière, et là, paf, je perds les os sur le ballon. Et là, quand t'as jamais perdu les os, parce que pour Naëlie, on avait percé la poche des os, j'avais la péri et tout, ça n'avait rien à voir. Là, déjà, c'est une piscine dans la salle de naissance. Et là, j'ai trop la honte, en fait. C'est trop bizarre, c'est ce sentiment, c'est marrant, comme quoi je me dis, oh, mais trop la honte, mais attends. Et là, je suis à quatre pattes, en train de laver avec des sopalins, tout ce que je trouve sous ma main. Je ramasse, et j'avais l'impression, en fait, d'avoir fait pipi devant des gens. Et là, la sage-femme me dit, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas grave, ça, on va éponger, on s'en fiche. Là, de toute façon, au moment où elle me dit ça, je hurle de douleur, c'est-à-dire que les contractions, je passe de gérable à j'ai envie de me suicider. Les contractions horribles, des contractions mais atroces, à l'impression de mourir. Je n'ai jamais connu une douleur comme ça. Et en plus, c'était bizarre, parce que j'étais là, ouais, je gère. Et en fait, au moment où j'ai perdu les os, j'ai du mal à gérer. Et même d'un point de vue psychologique, je suis à deux doigts de demander la péridurale. C'est-à-dire que j'ai fait chier tout le monde pour avoir un accouchement sans péri. Et là, je suis prêt à zigouiller quelqu'un pour qu'on m'amène la péridurale. Et là, la sage-femme et mon mari, mais non, mais tu vas y arriver en bon coach sportif, parce que moi, je leur avais dit, surtout si je dis ça, vous dites non. Et du coup, la sage-femme, elle m'accompagne, mon mari aussi. Et la sage-femme, je pense qu'elle était tellement enthousiaste à l'idée d'accoucher une femme sans péridurale qu'elle était limite à m'engueuler. Ah non, bah non, on va pas retourner en arrière. Bah non, là, c'est bon, vous y êtes. Et là, l'obstétricien arrive et me dit, tu peux encore décider, Justine. On n'est pas là pour que t'aies mal. Si tu as envie d'une péridurale, même faiblement dosée, tu peux encore. Et donc là, je dis, bah, pourquoi pas. Et en fait, l'anesthésiste tarde. Et là, il revient à un moment où la sage-femme et l'obstétricien me disent, l'enfant est là, le bébé est là. Donc, c'est plus la peine. Et donc, l'anesthésiste, en plus, moi, j'étais... J'avais tellement mal que j'insultais tout le monde et je hurlais parce qu'après, il y a quand même une femme qui m'a dit « Ah, c'est vous qui hurlez, je vous ai bien entendu, je vous ai bien peur. » et du coup, on l'a un peu envoyé chier. L'anesthésiste dit « C'est là, non, c'est bon, le bébé est là, repartez !» qui repart. Et donc là, bah, il fallait pousser, quoi. Et en fait, quand tu pousses, ça va mieux. Ça va mieux, c'est clairement une délivrance. C'est-à-dire que tu as mal pendant les contractions, mais quand tu pousses, tu sens que t'accompagnes le bébé. Et donc là, je redeviens maître de mon accouchement et j'accompagne le bébé, Vianney et la sage-femme, dont j'ai oublié le prénom malheureusement, parce qu'elle a été vraiment extraordinaire. Ils m'ont accompagnée au mieux, l'obstétricien aussi, et en quelques poussées, vraiment, Timothée était là. Et ça, c'était rapide et efficace. Et bien sûr que ça a été douloureux, mais ça a été tellement rapide, en fait, que je crois qu'il s'est passé 20-25 minutes entre le moment où on m'a dit « ça y est, il est là » et où le bébé est arrivé. Donc, rapide.
Donc, du coup, tu le disais, tu es sportive. C'était un challenge pour toi de réussir cet accouchement naturel ?
Oui, oui, clairement. Il y a mon côté sportif est bien ressorti à ce moment-là. C'est vrai que quand on a une compète, un challenge, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et puis là, j'étais pas déçue du tout.
Et alors, tu es ce qu'on appelle donc une fit mum. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, qu'est-ce que c'est une fit mum ? Il y en a plein des fit mum maintenant, d'ailleurs. C'est de pouvoir continuer à faire du sport enceinte et après les enfants. C'est-à-dire que de ne pas se dire, voilà, maintenant que je suis enceinte, maintenant que je suis maman, je vais avoir moins de temps, ce qui est le cas, hein, ou je ne vais pas pouvoir parce que je suis enceinte. Quand on a une grossesse qui est facile comme celle que j'ai pu avoir, parce que j'ai vraiment eu de la chance, hein. Le sport, je pense que déjà ça m'a aidée à avoir cette grossesse sans désagrément, parce que ça l'accompagne, hein, quand on a une grossesse sportive, on a une grossesse plus épanouie. Je ne parle pas de la grossesse sportive où on court encore un marathon à 8 mois, hein, pas du tout, mais d'une grossesse sportive et sécuritaire. Donc, une grossesse où on pratique du yoga, du pilates prénatal. Moi, j'ai fait aussi le yoga de Gasquet. Donc, c'est carrément des yogas qui préparent aussi à l'accouchement. J'ai fait de la danse classique, puisque moi, je pratique la danse depuis des années. Donc là, j'ai voulu continuer. J'ai fait du feet ballet, j'ai fait du fitness, j'ai continué la marche, j'ai fait de la natation. Et en fait, ça m'a aidée déjà à être en forme pendant cette grossesse et à conserver cette forme et cette énergie pendant l'accouchement et surtout après, parce que c'est surtout après qu'on a besoin d'énergie quand on a bébé.
Et d'où vient cette passion pour le sport ? Tu as été élevée là-dedans, si je ne me trompe pas ?
Clairement, je suis tombée dans le chaudron. Je viens d'une famille très sportive où mes parents ont lancé en fait une salle de sport. Enfin, ils ont créé une salle de fitness. J'étais dans le ventre de ma maman. En fait, quand ils inauguraient la salle, j'étais dans le ventre de ma maman. Donc, je suis née clairement dans une salle de sport avec un papa prof de sport, une maman qui pratiquait l'aérobic tout le temps et qui, elle, à mon avis, pratiquait l'aérobic jusqu'à 9 mois, hein, puisqu'à l'époque, on ne leur disait pas qu'il ne fallait pas faire de sport sans impact. Mais bon, voilà, il ne m'est rien arrivé, hein, j'étais quand même là. Et donc, voilà, donc oui, en effet, je viens d'une famille où le sport, c'est la religion. Il faut être sportif. J'ai fait de la danse classique, j'étais au conservatoire. Après, je courais. Enfin, j'ai toujours pratiqué un sport. Et voilà. Et je pense que ça te permet aussi, après, d'être sportive adulte, hein, quand tu es sportive à l'adolescence ou enfant, si tu aimes ça, du moins. Et puis, parce que ça me faisait plaisir aussi, ça me faisait du bien. Ils ne m'ont jamais forcé à faire du sport. J'ai toujours choisi les sports que je pratiquais. Mais après tu sens que si ça te fait du bien, pourquoi arrêter? Moi, clairement, quand je fais pas de sport, je suis une pile électrique.
Et donc tu as créé Truc de Nana, qui est dédié au sport et aux femmes, au bien-être des femmes. Tu disais que tout à l'heure que c'était pendant ta grossesse limite à l'accouchement que tu avais lancé le site.
Alors en fait, Truc de Nana, c'est une plateforme dédiée aux femmes, donc pas forcément liée au sport et au bien-être. En revanche, j'ai créé Objectif Super Nana là, il y a un an, où là, on a des programmes sportifs, de méditation, des recettes, des programmes de développement personnel qui accompagnent les femmes aussi d'un point de vue nutritionnel, etc. Donc, on s'entoure d'experts et on accompagne les femmes au quotidien ou quand elles le veulent pour leur permettre d'être plus en forme. Et d'ailleurs, on a un programme « Jeune et future maman » qui est top et que j'ai eu envie de faire, évidemment, après avoir écrit mon livre, où je me suis dit, voilà, le livre, c'est bien, mais un programme qui permettrait à la maman d'être, que ce soit plus interactif, plus participatif, ça pourrait être pas mal. Voilà.
Et c'est ta maternité qui t'a inspiré tout ça ?
Oui, c'est sûr que mes deux grossesses, mes deux maternités m'ont donné envie de faire des choses pour les mamans. Le livre Fit Mum, j'ai eu envie de l'écrire et j'avais proposé ce projet à mon éditrice. J'étais enceinte de 3 mois et elle m'avait dit « Banco, mais il va falloir aller vite !» Donc oui, et puis après le programme, c'est vraiment suite au livre, au retour des lectrices, où je me suis dit « faut aller plus loin, faut proposer aussi du postpartum ». Et d'ailleurs, là, on est en train de bosser sur un projet, donc sur un programme, sur Objectif Super Nana, qui sera un programme vraiment 3 en 1, parce que pour l'instant, on n'a que le programme sportif pour les jeunes et futures mamans. Et là, on est en train de bosser sur un projet où il y aurait aussi des méditations pour jeunes et futures mamans, des conseils, enfin vraiment un programme extra qui accompagnerait la maman du début de sa grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche et même après, où elle pourrait même faire du sport avec bébé, etc.
Et alors, quel est ton rapport à ton corps, toi, suite à tes deux grossesses ? Est-ce que tu as un autre regard ?
Oui. Alors avant, j'avais envie d'être une fit girl. Voilà, fallait que je sois hyper tankée, surtout quand t'as 20 ans et que t'es sportive et... plus, ma mère était mannequin. Donc, il y a un côté où je pense que j'avais pas des obsessions, mais à 20 ans, tu te regardes beaucoup le nombril. Et après mes deux grossesses, beaucoup moins, parce que déjà, tu as moins le temps et puis tu es focus sur tes enfants. Donc déjà, j'ai changé beaucoup de sport, parce que j'étais très dans les sports à impact. Il fallait que je transpire, il fallait que j'ai mal, quoi. Il fallait que ce soit des bootcamp commando, etc. Bon, il m'arrive d'en faire encore un peu maintenant, mais c'est plus pour le lâcher prise. Alors que maintenant, déjà, j'aime me faire du bien. J'aime être en phase avec mon corps. J'ai aussi d'ailleurs beaucoup travaillé sur ça avec la méditation. Et donc, tu es plus dans l'acceptation de toi, de ce que tu es, de ce que tu es devenu. Et donc, voilà. Donc, mes disciplines préférées, c'est le yoga, c'est le pilates, c'est toujours la danse. Et même si je cours encore beaucoup pour me faire du bien, mais plus d'un point de vue mental, je suis moins là à vouloir être sèche, dessinée. Puis de toute façon, avec les deux enfants, je suis devenue beaucoup plus menue qu'avant mes accouchements. Et c'est limite si je n'ai pas envie de prendre des rondeurs et de demander d'avoir plus de forme. Voilà.
Et alors, comment tu transmets ta passion pour le sport à tes enfants ?
Alors, pour Naëlly, c'est vrai que j'ai tout de suite eu envie de la mettre à la danse parce que moi, j'avais adoré la danse. J'ai pas envie de devenir ce genre de parent qui pousse l'enfant parce que l'adulte n'a pas réussi dans le sport qu'il faisait petit. Hein. J'ai pas envie d'en faire un petit rat de l'opéra. Mais c'est vrai que j'ai envie de lui faire découvrir ma passion. Donc la danse, elle a l'air d'aimer. Je pense qu'elle adore surtout, c'est son tutu. Mais c'est une sportive. Elle fait de la gym le samedi. Son père l'accompagne. Elle fait de la danse avec moi. Elle aime bouger. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle me ressemble tellement physiquement de visage, mais même de corps. Enfin, petite, c'est très drôle. Donc, je pense que ce sera une sportive. Et après, le but, c'est qu'elle choisisse son sport. Voilà. Peu importe le sport qu'elle choisit, moi je l'accompagnerai au mieux. Et puis là, Timothée, il a 2 ans, donc de toute façon, il court 10 marathons par jour, hein, comme un gamin de 2 ans. Mais oui, j'aurais envie qu'il fasse du sport, bien sûr.
Oui, parce que tu fais souvent du yoga aussi avec eux. On voit dérouler le tapis à la maison.
Oui, c'est vrai, j'adore le samedi matin. Moi, je fais du yoga à la maison, parfois le dimanche. Et c'est vrai qu'ils ont chacun leur tapis. Avant, j'en faisais qu'avec Naëlly, et puis en fait, j'en ai fait très vite avec Timothée parce que je me souviens que j'allaitais Timothée quand je faisais du yoga post-natal. Donc très vite, il a été sur un tapis de yoga, et maintenant, c'est un peu notre moment où on fait du sport, où on lâche prise, où on rigole aussi, parce que Naëlly parfois nous donne des cours de yoga. Donc ça, c'est très drôle. Je l'ai filmé plusieurs fois sur Insta, et un jour, il va vraiment falloir que je fasse un long film parce qu'elle donne un cours de yoga, mais c'est très drôle. Parce qu'elle reprend des phrases que je dis ou des phrases qu'on entend sur YouTube ou sur Objectif Super Nana quand on déroule les programmes de yoga. Et donc, elle reprend des phrases de coach. C'est hilarant. Elle dit « expirez, inspirez ». Enfin, elle est à fond dans son rôle. Donc, c'est très drôle et c'est surtout très sympa à voir.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Tout. Non, beaucoup de choses. Bon, je reste la femme que je suis, je pense. Mais j'ai l'impression d'être quelqu'un de meilleur. Après, on est plus stressé, on est parfois plus fatigué, mais le fait d'avoir des enfants, ça m'en donnerait envie. J'ai envie d'en avoir 3-4, quoi. Après, c'est mon mec qui ne sera pas forcément en paix. La maternité, ça a été ça a été une grande chance et c'est quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, une maman parisienne, c'est quelqu'un qui essaye de faire du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Voilà, faut jongler avec la vie professionnelle, la vie perso. Essayer de pas forcément rentrer du boulot exténué et puis de donner à ses enfants quand même un peu de verre, un peu de zen, parce que vivre à Paris, c'est pas tous les jours évident. Moi, j'adore Paris, hein, je suis une vraie parisienne, mais avoir des enfants à Paris, il faut essayer de le vivre du mieux qu'on peut.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Alors, j'adore le jardin d'acclimatation. À part quand il y a trop de monde l'été, hein, là c'est un calvaire, mais c'est vrai que c'est hyper agréable. Moi, mes enfants adorent parce qu'il y a tout, quoi. Il y a des manèges, il y a des fontaines d'eau quand il fait chaud, il y a du verre, donc c'est quand même assez extra. J'adore le café du Club des Enfants Parisiens, c'est un salon de thé. Au fond du Club des Enfants Parisiens, qui est un club où il y a plein d'activités, où j'emmène Naëlie le mercredi, et c'est un peu une bulle de bien-être, une petite parenthèse quand je l'accompagne à son cours de musique. Moi, je vais me poser là-bas et il y a plein de mamans, plein de papas qui sont là à boire leur petit thé. Et c'est un peu cool et on rencontre plein de papas, plein de mamans, plein de nounous. Et c'est assez kids-friendly parce qu'il y a plein d'enfants. Et voilà, et Montbigny aussi dans le 15e, puisque c'est un lieu où on peut déjeuner. C'est une petite cantine Elsi et en même temps, c'est un magasin de jouets et un lieu où on peut faire pratiquer des ateliers plein d'activités à nos enfants, éveil corporel, etc. Donc c'est assez cool. Et ça, c'est une vraie chance d'être à Paris pour avoir ce genre de lieu extra.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, projet rien qu'à moi, on va essayer de sortir au plus vite nos nouveaux programmes. C'est plutôt d'un point de vue pro. Et projet rien qu'à moi, j'aimerais bien, mais c'est plutôt à moyen long terme, faire une formation dans l'Ayurveda, parce que j'ai eu un déclic récemment et j'adore ça. Et j'aimerais bien soumettre l'Ayurveda aux utilisatrices, à notre communauté, mais pour ça, il faut que je connaisse ça encore mieux que maintenant. Voilà, et projet en famille, on va partir là pour les vacances d'été. Donc, on va faire un tour de la France, on va aussi partir en Sicile. Et on va faire de belles vacances en famille avec tous les quatre, puis aussi avec mes parents, ma sœur, son mari, ma belle-sœur, mon beau-frère. Enfin, ça va être vraiment des vacances en famille et je pense que ça va nous déconnecter avant la rentrée.
Merci beaucoup, Justine.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Justine, je vous invite à commenter la photo de l'épisode 30 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.